inattendu est présenté par Christophe Ondelatte.
Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes en ce samedi de Pâques installés à la FNAC de Bordeaux, au cœur du quartier commerçant de la rue Sainte-Catherine, considérée comme l'une des plus grandes rues piétonnes d'Europe. Nous sommes donc chez les marchands du Temple avec le cardinal archevêque de Bordeaux, Monseigneur Ricard, que je salue. Bienvenue.
Merci.
Merci d'être là. Alors j'avoue que quand je vous ai invité à venir ici à la FNAC, je me suis dit ça va peut-être pas lui plaire comme endroit, ça manque un peu de sacré. Et puis vous avez dit oui tout de suite.
Bah écoutez, on est en plein cœur de Bordeaux, dans la rue Sainte-Catherine, où il y a tant de gens qui passent.
Oui, donc c'est là qu'on vient chercher les brebis égarées éventuellement.
Voilà, bah écoutez, on y vient volontiers.
Avec vous, bien sûr, on va parler de cette église catholique de France dont vous êtes l'un des cadres supérieurs. Cette église en crise, ça on le dit depuis longtemps, mais peut-être un peu plus en crise que d'habitude et qui se déchire en ce moment façon confetti depuis les dernières déclarations du pape sur le préservatif qui ont semé un profond malaise chez vos croyants. Et puis on accueillera vos deux invités, Véronique Fayet, que je salue, bonjour.
Bonjour.
Chrétienne et femme politique, adjointe au maire de Bordeaux, en charge des questions sociales, et Boris Bruno, bonjour.
Bonjour.
Qui a 26 ans et qui a décidé de se faire baptiser ce soir, comme 3000 autres jeunes adultes en France à l'occasion de Pâques, et il va nous expliquer pourquoi. On va faire ensemble, Monseigneur, le tour de l'actualité de ce samedi de Pâques, avec la mort ce matin de René Monory. Il avait présidé le Sénat, à la fin des années 70. Il avait été plusieurs fois ministre, et surtout, pour beaucoup, il était le garagiste de Loudun, c'est-à-dire un homme politique autodidacte. Des questions ce midi autour de l'intervention des forces spéciales françaises pour libérer l'équipage d'un voilier pris en otage au large de la Somalie. Un otage est mort hier. A-t-il été tué par une balle française ? En cette veille de Pâques, on ira chez un chocolatier où se pressent beaucoup de clients, sans trop savoir d'ailleurs pourquoi, ce qu'est vraiment Pâques. La météo, elle est fidèle à sa réputation, Pascal. En tout cas, ici à Bordeaux, il fait ce qu'on appelle un temps de Pâques, Valérie Quintin.
Voilà, mais ça ne va pas aller vraiment en s'arrangeant. Non pas que ce soit vraiment pire, il va y avoir quelques pluies quand même cet après-midi, quelques averses. Le gros des pluies, on le trouve surtout un petit peu plus à l'est, en allant vers le Midi-Pyrénées et surtout en Languedoc-Roussillon, où il y a de gros orages qui sévissent, de fortes pluies qui remontent jusqu'aux portes du Massif central et de la région Centre. Pour les autres, ça va à peu près bien. Il y a des averses quand même qui circulent en Normandie, en Bretagne et dans les Pays de Loire, alors qu'on trouve le soleil sur le nord, sur l'île de France ou encore sur les régions du nord-est jusqu'aux Alpes. C'est un petit peu chargé aussi sur la Côte d'Azur et sur la Corse. En attendant, c'est vrai qu'il va beaucoup pleuvoir. On attend de gros orages et de la neige sur les Pyrénées à partir de 1500 mètres, où il y a d'ailleurs un risque d'avalanche assez élevé de 4 sur 5. Les températures, Tarbes se retrouve tout en bas de la fourchette avec 9 degrés prévus cet après-midi. Il fera 11 degrés à Caen, 12 à Limoges, 13 à Bordeaux, 15 degrés sur Dunkerque, 17 à Toulon, 18 à Nice, 20 degrés pour Paris et Lille, 21 à Besançon, 22 à Nancy, un maximum de 24 à Strasbourg.
Rappelez-moi combien à Bordeaux ?
13, je ne trouve plus mes chiffres.
13
degrés, oui.
On n'est pas très loin de Tarbes, mais on n'est pas très loin de Tarbes en température non plus. Merci Valérie Quintin. Et puis à Pâques, on se déplace. On se déplace beaucoup, on rend visite à la famille, et puis ça fait des bouchons, tout ça. On a pu d'ailleurs nous-mêmes en faire l'expérience en descendant à Bordeaux hier soir, et en mettant plus de 6 heures. Des bouchons, il y en a ce matin, hein, Sébastien Date.
Oui, effectivement, Christophe, il y en a même 300 km au plan national. Principale difficulté à la mi-journée, sur l'A6 en direction de la vallée du Rhône, avec des ralentissements dès la sortie de Paris, puis à hauteur d'Auxerre et Villefranche. Plus au sud, sur la 7, ça coince encore à hauteur de Vienne, Valence et Orange. Et puis l'autre point noir de cette journée, c'est bien sûr le Grand Ouest et le Centre. Vous circulez en accordéon sur la 10 dès la sortie de la capitale, puis à l'approche d'Orléans, entre Tours et Poitiers, ainsi qu'à l'arrivée sur Bordeaux. Enfin, ça bouchonne également sur la 20 dans le secteur de Châteauroux, ainsi que sur la 13 en direction de la Normandie, à hauteur de Mantes, Bourrachard et Beuzeville.
Merci Sébastien. On a donc appris ce matin, Monseigneur Ricard, la mort de René Monory à l'âge de 85 ans. C'est un nom qui peut-être ne dit pas grand-chose aux plus jeunes, mais qui en revanche a marqué plusieurs générations pour qui René Monory était avant tout le garagiste de Loudun, un petit garagiste de la Vienne, devenu ministre puis président du Sénat. Une belle histoire d'autodidacte que vous allez nous rappeler, Jérôme Florin.
Oui, René Monory commence effectivement comme
apprenti dans le petit garage paternel de Loudun, une microstructure qu'il va transformer en quelques années en prospère concession de voitures et de machines agricoles. Ce sont là les premiers signes d'un destin hors du commun. Il prend vite goût à la politique, au grand étonnement de sa famille. Il devient maire du village, puis conseiller général, sénateur, ministre. René Monory gravit tous les échelons de la vie politique. Quand il était président, Valéry Giscard d'Estaing l'avait repéré et l'avait choisi comme ministre de l'économie. Jean-Pierre Raffarin, qui lui succéda à la présidence de la région Poitou-Charentes, se souvient d'un homme très ouvert.
Dans le train, il cherchait toujours à être disponible. Jamais un journal ou jamais un dossier pour le mettre entre lui et le visiteur. Les gens venaient parler avec lui. On prenait le train plusieurs fois par semaine. Il s'enrichissait de ce que lui disaient les autres. Il était vraiment cette expression de quelqu'un qui a fait le parcours politique en montant les marches une à une.
À Poitiers, René Monory a créé le Futuroscope. Tous ceux qui témoignent aujourd'hui disent la même chose. C'était quelqu'un de constamment tourné vers l'avenir, passionné de nouvelles technologies. Le saviez-vous, Christophe ? C'est René Monory qui a créé le site internet du Sénat lorsqu'il en était le président. Gérard Larcher, l'actuel président du Sénat.
Nous devons tout cela à René Monory qui en fut le pionnier. C'est vraiment la marque. Le premier site public de France en nombre de visites, c'est René Monory qui en a été l'initiateur. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, il y a maintenant 17 ans au Sénat.
Alors René Monory dira n'avoir jamais pris la grosse tête, mais son éviction de la présidence du Sénat au profit du RPR Christian Poncelet en 98, lui laissera un goût amer. Ce sera le début de son retrait de la vie politique.
Merci Jérôme. Alors René Monory, qui est mort cette nuit, avait été entre autres le dernier ministre de l'économie de Valéry Giscard d'Estaing de 1978 à 1981. C'était un centriste, un UDF pur et dur. Normal donc que le président Giscard d'Estaing nous parle de lui aujourd'hui, jour de sa mort, en exclusivité sur RTL. Écoutez.
René Monory, c'est un homme qui avait un très grand jugement, très grande clarté d'esprit, qui avait un langage très direct, que les Français aiment bien d'ailleurs. Et donc j'avais vu que c'était un très bon esprit, très, très bien organisé. Alors il n'avait pas en effet de culture économique académique, il a dit lui-même qu'il n'avait jamais lu un livre d'économie, mais il avait autre chose. Il avait la connaissance concrète de l'économie, parce qu'il avait fait lui-même sa carrière professionnelle comme garagiste. C'est un parcours qu'on peut citer en exemple aux Français, parce que souvent ils disent « mais la société est complètement bloquée, le pouvoir est accaparé par les mêmes », ce qui est d'ailleurs un peu vrai, il faut bien le reconnaître. Mais il a des exemples du contraire, des exemples assez nombreux du contraire. Et moi j'étais heureux de participer en quelque sorte à ce parcours de René Monory, parce que je l'ai choisi pour ses qualités, pour sa personnalité et pas pour ses diplômes.
Monseigneur Ricard, vous êtes d'une génération qui forcément connaissait bien René Monory.
Oui, même si j'appartiens à la génération suivante quand même.
Mais c'est rapport à lui, oui, oui. Même moi je le connaissais, donc vous connaissez sans doute alors.
Très bien. En même temps, je voudrais saluer sa figure. Hein. Je crois que ça a été une grande figure. C'est un homme de fait, avec un beau parcours, mais qui ne lui a pas mis la grosse tête. C'était un homme qui restait accueillant, abordable, humaniste, attentif aux réalités sociales aussi. Et puis je n'oublie pas, c'est certainement peut-être une des choses qui va rester de lui, c'est le père du Futuroscope de Poitiers.
Oui, et pour vous, ici à Bordeaux, ça compte le Futuroscope de Poitiers ? Vous y êtes allé déjà au Futuroscope, vous ?
J'y suis allé, oui.
C'est vrai ?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a plu comme attraction ?
Oh ben écoutez, moi en particulier, c'est tout ce qui tournait autour de la, tout ce qui est aérospatial, donc toute la découverte aussi du futur, hein, de cet univers aussi qu'on apprend à découvrir. Mais je sais que beaucoup de jeunes aussi sont allés passer la journée à Poitiers au Futuroscope.
Merci Monseigneur Ricard, on reste avec vous jusqu'à 13h30 sur RTL. On marque une première pause dans ce journal inattendu. Et ensuite, l'armée française a-t-elle signé une bavure hier ?
Le journal inattendu sur RTL, Christophe Ondelatte. RTL 12h41, suite du journal inattendu présenté par Christophe Ondelatte en direct de Bordeaux.
On va évoquer maintenant, on est à la FNAC de Bordeaux, je le précise pour tous ceux qui voudraient nous rejoindre, rue Sainte-Catherine. On va évoquer maintenant toutes les questions qui entourent l'opération menée par les forces spéciales françaises hier au large de la Somalie, sur ce voilier qui était otage de pirates, le Tanit. On a su très vite hier que l'opération avait mal tourné pour l'un des otages, Florent Lemasson, tué par balle au moment de l'intervention des militaires français. C'était le propriétaire du bateau. Je rappelle que cette intervention a permis la libération, en revanche, sain et sauf de 4 autres otages. Et ce midi, on cherche à savoir d'où vient la balle ou les balles qui ont tué. Autrement dit, l'otage a-t-il été tué par les pirates ou par les soldats français. Pierre-Julien, on n'a pas de réponse, mais l'armée française ne ferme aucune porte. Hein.
Oui, vous savez, Christophe, hein, le ministre de la Défense, Hervé Morin, l'a affirmé ce matin sur notre antenne. Tout sera entrepris pour connaître la vérité. L'enquête est en cours car on ne peut rien exclure, même un tir fratricide. Hervé Morin.
Nous n'excluons aucune hypothèse. Il y a une enquête judiciaire, il y aura donc bien entendu une autopsie. Et si par malheur il s'agit d'une balle française, nous le dirons.
Oui, l'autopsie du jeune informaticien de Vannes devrait permettre de connaître le calibre de l'arme utilisée, le 7.62 d'une Kalachnikov, l'arme des pirates, ou celui d'autres modèles différents utilisés par les forces spéciales françaises, car la fusillade a été très brève mais intense lorsque les 8 commandos marines sont montés à bord du voilier pour libérer les 5 Français, dont le petit Colin et sa maman Chloé, le capitaine de vaisseau Guillaume Goutet, le commandant de la frégate Aconite, qui hier après-midi a recueilli à son bord les exotages.
Très rapidement, les commandos marines, en moins d'une minute, sécurisent Chloé et son garçon, puis les deux amis sur l'avant du Tanit, et puis quasiment instantanément, au moment de neutraliser les pirates, nous constatons, nous voyons, et j'ai vu moi-même des coups de feu de Kalachnikov, des rafales de Kalachnikov partir. Un pirate avait notamment réussi à se jeter dans le cockpit. Dans le cockpit, il avait Florent Lemasson. Les échanges de coups de feu ont été nourris dans cette phase-là, et il nous est absolument impossible de savoir quelle balle il a été malheureusement mortellement touché.
Alors, les exotages ont été héliportés jusqu'à Djibouti, puis ils seront rapatriés vers la France à bord d'un Falcon. Ils devraient arriver à Villacoublay en fin de matinée demain.
L'enquête de Pierre Julien dans nos studios de la rue Bayard à Paris. À la veille de Pâques, Monseigneur Ricard, il faut bien qu'on parle de ce qui va être quand même la grande activité du jour. Les œufs et les lapins en chocolat. La France est peut-être en train de se déchristianiser. En tout cas, elle n'est pas en train de se déchocolatiser. Reportage de Tony Cousin au rayon œufs de Pâques.
Des cloches, des œufs, des lapins, des poussins, et voilà.
Est-ce que c'est une connotation traditionnelle ou pas ?
Religieuse, plutôt. C'était une manière de marquer la fin du carême et donc de s'offrir des sucreries, et voilà.
Le chocolat pour Pâques, c'est peut-être associé aux enfants, la nôtre. Notre fille, elle est peut-être un peu trop jeune pour faire la pêche aux œufs de Pâques, et nous, peut-être un peu trop âgés. Je sais que ça vient des cloches de Pâques, après, je sais pas si c'est religieux ou pas au départ.
C'est les cloches. Il faut les cacher très vite. Pour une simple raison, c'est qu'à la maison, il y a un chien, donc il a un nez très affûté.
C'est la joie, le chocolat. C'est pour ça qu'on se prive pendant 40 jours, avec le dimanche et résurrection, c'est la joie et on mange du chocolat.
Des invitations pour faire la chasse aux œufs, mais on n'est pas traditionnaliste à ce niveau-là.
Nous avons fait la semaine sainte là, donc le jeudi il y a eu une messe, le symbole du lavage des pieds, le repas, etc., la crucifixion hier, et puis là ça va être le renouveau.
On va cacher des œufs dans le jardin pour les enfants, on les a déjà achetés, on va aller chez de la famille, puis une chasse aux œufs organisée dans le jardin.
Alors ce que je vois, Monseigneur Ricard, ce que j'entends en tout cas, c'est un verre à moitié vide et puis un verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a des traces quand même de culture religieuse dans notre pays et en même temps, on sent bien que tout ça est en train de s'effacer lentement.
Écoutez, moi d'abord, ça me rappelle mon enfance. Hein. Les œufs, les cloches, dont ma grand-mère me disait, elle partait à Rome le jeudi saint puisqu'on ne les sonnait plus et elle revenait pour Pâques. Et à ce moment-là, elle vous apportait évidemment des petites cloches en chocolat.
Donc voilà. Vous n'êtes pas l'ennemi du chocolat.
Je ne suis pas l'ennemi du chocolat, même si au niveau régime, je dois faire attention.
Je suis d'accord avec vous.
Je crois qu'il faut en même temps retrouver le sens du symbole. L'œuf, c'est la promesse de vie, c'est la vie qui éclot. Et c'est vrai que c'est le symbole de ce que nous fêtons à Pâques, c'est-à-dire la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire la victoire de la mort sur de la vie sur la mort. La victoire de l'amour qui va jusqu'au bout sur la haine, la victoire de la paix sur la violence, la victoire de l'espérance sur ce qui peut être aujourd'hui la lassitude, la fatalité et un sentiment un peu de désespérance.
Quelque part donc, l'œuf en chocolat est plus en phase qu'on ne le pense avec la fête religieuse, en revanche on s'égare avec les lapins et compagnie, c'est ça ?
Alors il paraît qu'il y a une tradition, en particulier dans les pays de l'Est, qui veut qu'à ce moment-là, ce sont les lapins qui ont justement couvé les œufs. Voilà.
Que diable. Donc on peut même raccrocher
le lapin et l'œuf
à la fête religieuse. Qu'est-ce qu'un chrétien est censé faire aujourd'hui ? Hier, vendredi saint, il était censé jeûner et prier. Demain, il est censé festoyer. Et aujourd'hui, samedi saint, qu'est-ce qu'il est censé faire ?
Alors aujourd'hui, c'est le vide. C'est le vide liturgique. C'est-à-dire que nous sommes dans la situation des apôtres. Le Christ a été mis au tombeau. Et puis on attend, on ne sait pas. Voilà. Et cette nuit...
Donc aujourd'hui, c'est le seul jour de l'année où on ne peut pas célébrer la messe.
On ne peut pas célébrer la messe, on ne célèbre pas non plus les sacrements, ni les mariages aussi. Et ce soir, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du Christ vivant, ressuscité. Et donc, à la fois, on évoque l'expérience passée des apôtres, mais nous ne le faisons pas comme un événement qui s'éloignerait dans l'histoire. Pour nous, c'est une réalité vivante, le Christ est vivant, et aujourd'hui, il nous fait vivre de sa vie. C'est pour ça que c'est en particulier, dans la nuit de Pâques, le grand moment pour les baptêmes. Baptême d'adultes, et baptême d'adolescents.
Et on en parlera tout à l'heure avec l'un de vos invités qui a choisi de se faire baptiser ce soir à l'âge de 26 ans. On va marquer une nouvelle pause, Monseigneur Ricard, et ensuite, vous n'allez pas échapper à ce qu'est l'exercice rituel de ce journal inattendu, c'est-à-dire le portrait de François-Xavier Demoulin.
RTL, le journal inattendu.
Christophe Ondelatte. RTL 12h48, le journal inattendu se déroule en direct de Bordeaux et l'invité de Christophe Ondelatte est l'archevêque Jean-Pierre Ricard.
Et cardinal, c'est important, cardinal, Monseigneur Ricard.
Ah, c'est une responsabilité qui a une dimension internationale par rapport à la responsabilité d'un évêque qui, elle, s'exerce davantage sur le terrain, sur un diocèse particulier.
Alors vous allez, on est à la FNAC de Bordeaux et je disais tout à l'heure que j'avais été étonné que vous acceptiez de venir chez les marchands du Temple. Manifestement, ça ne vous pose pas plus de problème que ça. Donc enchaînons. Vous allez maintenant être soumis à l'exercice du portrait. C'est un portrait que signe chaque semaine dans le journal inattendu Xavier Demoulin, qui fut enfant de cœur, je crois, quand il était petit. Xavier qui n'a pas pu venir à Bordeaux avec nous, mais qui est à Paris dans nos studios. Portrait.
Voici Jean-Pierre Ricard, né le 25 septembre 44, ordonné prêtre en 68, nommé évêque en 93, archevêque en 2001, cardinal en 2006. Waouh ! Je sais, c'est impressionnant et c'est pas la peine de croire en Dieu pour être impressionné. Par exemple, on peut se foutre complètement du foot et faire « waouh » quand on voit Zidane. Et ben là, c'est pareil, le cardinal Jean-Pierre Ricard, c'est un peu Zidane dans son domaine, l'Église catholique. Bon, la différence entre Zidane et notre cardinal prêtre de Saint-Augustin ici présent, c'est que Zidane, il a été champion du monde et que notre éminence, c'est comme ça qu'on dit, Christophe, pour un cardinal, ne l'appelait pas Jean-Pierre. Je sais qu'on est à la FNAC de Bordeaux et que c'est cool, mais quand même. Bref, et que notre éminence, donc, n'est pas encore devenue pape. Et là, je dis, c'est bien dommage. Car en voilà un qui n'a pas le mal de l'air et supporte plutôt bien à en juger son parcours, les pressions atmosphériques et l'avion. Pas du genre à se laisser la tête dans les nuages déraper sur l'usage du préservatif et l'épidémie du sida en Afrique, lui. Non, du genre à aimer l'avion et cumuler les miles. D'ailleurs, à l'époque où il était évêque, le cardinal Jean-Pierre Ricard était surnommé l'évêque Rafale, rapport à l'avion du même nom, multipliant les allers-retours au plus haut des cieux entre Bordeaux, Paris et le Vatican. En plus, Jean-Pierre Ricard est un méridional soft. Attention, on n'est pas chez Rému ou à la table de Jean-Claude Godin et Jean-Pierre Foucault, non. Mais quand même, un pape avec cet accent chantant, ça serait chouette, non? Je parle de ça parce que, comme on dit que les Français n'aiment plus le pape Benoît XVI, tiens, même les catholiques, ils voudraient divorcer, pardon, en changer. Selon un récent sondage CSA, ils ne sont plus que 29% les cathos à avoir une bonne opinion du pape. Faut dire que pour avoir une bonne opinion du pape en ce moment... Oui, quand je repense à sa visite chez nous en septembre, et lui qui disait vouloir faire l'unité chez tous les catholiques, waouh, il a fait l'inverse. Et puis, il a pas fait dans la dentelle, non. Bon, d'abord, pour faire bien moderne, il a fait redevenir tendance la croix de Léon XIII, chère aux traditionnalistes, ainsi que les surplis en dentelle, et la messe en latin. C'était déjà pas si mal que ça. Et puis après, il y a eu la levée de l'excommunication des évêques intégristes de la fraternité Saint-Pie-X, les déclarations négationnistes de son ami Williamson, l'affaire de l'excommunication de cette petite brésilienne violée et enceinte, et Cherries on the Pudding, l'affaire du préservatif et l'épidémie du sida en Afrique. Que du bonheur. Demain, c'est le dimanche de Pâques, avec les œufs dans le jardin, le chocolat qui fond dans la main des enfants, qui rigolent, et une journée capitale pour les chrétiens. Oui, Pâques, c'est la résurrection du Christ, le temps du renouveau pour eux. Pâques, on y croit ou pas, mais c'est un peu comme notre monde aujourd'hui, un monde en mouvement, où tout a disparu et tout doit renaître dans l'idée de faire un peu mieux qu'avant. Alors, si en plus d'un renouveau économique, politique, écologique, on pouvait trouver au fond du jardin un renouveau spirituel qui nous ferait plus la morale en latin, mais nous ouvrirait un peu les yeux avec un accent qui chante un peu, ça pourrait donner envie à tous les cathos de près ou de loin, même aussi aux impies, aux sceptiques, aux agnostiques et aux autres, de lever juste un peu la tête vers le ciel.
Monseigneur Ricard, est-ce que vous reconnaissez que votre métier est plus difficile depuis que la polémique enfle autour des déclarations du pape, c'est-à-dire depuis 2 mois?
Oui, l'actualité ne nous a pas épargnés. que ce soit l'opinion publique, que ce soit l'opinion publique à l'intérieur de l'Église, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de questions. Et quand vous êtes à la barre de la barque sur laquelle on est embarqué, ben évidemment, vous ressentez davantage un peu les flots qui sont un peu en furie.
Voilà. Le sondage dont parlait Xavier à l'instant, 29% des catholiques seulement, aujourd'hui, se sentent en phase avec le pape Benoît XVI, ça veut dire un petit tiers de catholiques. Deux tiers de catholiques ne sont donc pas en phase avec leur pape. Ça, je suppose que ça vous pose problème.
Alors, je pense que là, vous avez des sondages différents.
C'était
pas les mêmes, je veux dire, au moment du voyage du pape. C'est vrai qu'il y a eu là une accumulation de faits qui tous ne relèvent pas du pape, d'ailleurs, hein, qui, de fait, dans l'opinion publique, ont présenté une image plutôt négative du pape, hein, en disant il ne comprend pas, il n'est pas en phase avec la modernité. Je crois qu'il y a un réel problème d'information, de communication. Je ne dis pas le pape, mais je dirais plus largement Rome, avec l'opinion publique. Ceci dit, je pense qu'il y a une espèce de violence contre le pape qui, à un moment, j'allais dire, m'étonne. Je me dis, qu'on ne soit pas d'accord, soit, ben, très bien, je veux dire, sur un certain nombre de points, ça. Mais après le prendre un peu, alors ce n'est pas l'agneau pascal, c'est le bouc émissaire, là. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là ? Ça me paraît un peu disproportionné.
Bah, laissons le pape et concentrons-nous sur le cardinal que vous êtes.
Oui.
Si on prenait les sujets qui fâchent, et puis vous répondez très brièvement, et comme ça, enfin, aussi brièvement que vous pouvez, en étant complet, hein, je ne veux pas vous pousser non plus à la caricature. Mettons que je viens vous voir en vous disant, voilà, je suis très catholique, donc j'ai besoin que vous m'indiquiez la voie. J'ai des relations sexuelles hors mariage, puis-je mettre le préservatif, Monseigneur ?
Je vous dirais, dans ce cas, oui. Dans ce cas, oui. Je veux dire, dans la mesure où vous êtes dans une situation à risque et que vous risquez d'être contaminé ou de contaminer, si vous êtes séropositif, votre partenaire, je veux dire, là, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein, sur ce point-là.
Je ne m'attendais pas à une réponse aussi carrée de votre part, je suis surpris.
Bah, écoutez, l'Église ne dit pas « je préfère que tu attrapes le sida plutôt que de mettre le préservatif ». Je veux dire, si la position de l'Église devait être comprise comme ça, ça, ce serait véritablement une chose grave. Non, ce qu'elle dit, c'est « je souhaite que tu puisses maîtriser ta sexualité, que tu apprendras à vivre une certaine fidélité pour que tu n'aies plus besoin du préservatif.
Mais
et on pense que, j'allais dire, l'appel, le langage au préservatif ne suffit pas pour répondre, me semble-t-il, aujourd'hui à toutes les questions qui se posent.
Je peux vous demander quelque chose, Monseigneur Ricard, est-ce que vous auriez répondu aussi clairement il y a encore un mois ? Ou est-ce qu'au fond, dans votre communication, vous avez un peu changé parce que vous vous dites, si on n'est pas plus clair que ça à l'égard des chrétiens, danger.
Les événements récents, je veux dire, m'amènent à redire une position qui a été la mienne. Je veux dire, c'est la position...
De manière plus claire ?
La position du pasteur.
J'ai relu la totalité de vos interviews de presse écrite depuis 3-4 ans. Jamais vous n'avez été aussi clair qu'aujourd'hui.
C'est vrai que c'est l'actualité qui vous oblige des fois à préciser un certain nombre de vos positions. Mais moi, il me semble, si vous voulez, que autre chose, une situation où, dans un cas particulier, j'allais dire, vous avez un danger. Et là, même si c'est un mal, c'est le moindre mal. Et donc, il faut, à ce moment-là, se protéger. Voilà.
Non, mais c'est carré, c'est clair.
Et puis après, l'autre question, c'est la question, comment vous allez vivre votre vie dans les relations, à la fois affective, sexuelle et matrimoniale, si vous êtes marié.
On a bien compris, et c'était intéressant. Deuxième sujet qui fâche, la réintégration de l'évêque révisionniste Williamson dans l'église catholique. Fallait-il le faire ou pas ? Et puis comme vous ne m'avez pas fait de langue de bois sur le premier sujet, j'espère que sur ce sujet-là, vous serez aussi clair.
Je pense que le pape ne l'aurait pas fait s'il avait su qu'il était révisionniste. Mais il a souhaité le faire pour les évêques qui s'étaient retirés du lien avec Rome, donc il y a plus de 20 ans. Voilà. Le pape cherche à travailler à l'unité de l'Église, à la communion de l'Église. Il sait que plus les années passent, plus les divisions finalement s'approfondissent. On devient d'autres églises, comme on l'a vécu à certains moments aussi avec les orthodoxes et les protestants. Bon, donc il a voulu... C'est le geste de la dernière chance, hein. Mais en même temps, je crois qu'il ne peut pas lui-même réintégrer, c'est-à-dire redonner une responsabilité d'évêque dans l'Église à quelqu'un qui a des positions négationnistes.
Donc il devrait le bouter hors de l'Église, aujourd'hui ?
Je crois que tant que lui-même, j'allais dire, ne reconnaît pas qu'il s'est trompé, je ne crois pas que le pape puisse lui dire « Vous pouvez avoir une nouvelle responsabilité ».
On poursuit cette passionnante conversation dans un instant avec vous et avec vos invités. Je vous les représente, Véronique Fayet, adjointe au maire de Bordeaux, en charge des questions sociales à la mairie, et puis un jeune catéchumène, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui se font baptiser à l'âge adulte. Boris Bruno sera baptisé ce soir près de Bordeaux à Saint-Médard-en-Jalles. Il a 26 ans, il va nous raconter son parcours.
RTL, le journal inattendu.
Valentin Spitz, vous nous rappelez les titres de l'actualité.
La mort de René Monory, l'ancien président du Sénat dans les années 90, s'est éteint ce matin à 85 ans dans sa maison de la Vienne. Autodidacte, il avait commencé sa vie comme garagiste à Loudun. Plusieurs fois ministre, sénateur, il avait aussi lancé le projet du Futuroscope de Poitiers en 84. Les hommages se multiplient. Nicolas Sarkozy salue un homme très attaché aux valeurs humanistes. On ne sait pas encore si le skipper du Tanit a été tué par les pirates somaliens ou les militaires français. Hervé Morin promet une enquête judiciaire et une autopsie. L'armée française est intervenue hier sur le voilier capturé samedi dernier par des pirates somaliens. Le skipper Florent Lemasson, 28 ans, est mort lors d'un échange de tirs entre les ravisseurs et les forces spéciales. Les quatre autres otages, sains et saufs, seront de retour en France demain. Beaucoup de monde sur les routes pour le week-end de Pâques et le début des vacances de la zone C. Journée classée orange dans tout le pays, rouge du côté de Paris, du centre de la Normandie et de la Bretagne. À l'heure actuelle, 300 km de bouchons cumulés au plan national, principalement sur la 6 en direction de la vallée du Rhône, sur la 10 en direction du Grand Ouest, ainsi que sur la 13 en direction de la Normandie. Le temps pour cet après-midi, pas terrible, avec beaucoup de pluie sur le Languedoc-Roussillon, en Midi-Pyrénées et en Provence. Quelques éclaircies sur l'Île-de-France, le nord et le long des frontières est. Les températures, 10 à Toulouse, 12 à Bordeaux, 19 à Paris, 24 à Strasbourg et Ajaccio.
On est très confortablement installé donc à la FNAC de Bordeaux, rue Sainte-Catherine, au cœur du quartier commerçant. Et je salue d'ailleurs au passage les auditeurs de la région de Bordeaux qui sont venus assister à l'émission en direct ici. On est au cœur donc de ce week-end de Pâques avec le cardinal archevêque de Bordeaux, Monseigneur Ricard. On a évoqué à l'instant la crise qui secoue l'Église catholique de France après les déclarations du pape. Et je voudrais qu'on parle maintenant d'un sujet qui vous concerne. Et ensuite, on recevra vos deux invités, Boris Bruno, 26 ans, qui a choisi de se faire baptiser ce soir à Bordeaux, et Véronique Fayet, qui est adjointe au maire ici à Bordeaux. Alors, le sujet qui fâche et qui concerne directement l'avenir de votre Église, est-ce que vous savez, Monseigneur Ricard, quand vous n'aurez plus de prêtres ici, dans le diocèse de Bordeaux, âgés de moins de 70 ans? Est-ce que, finalement, c'est facile sans doute à calculer, c'est une pyramide des âges, vous pouvez nous dire ça, l'extinction de la race est-elle programmée?
La diminution, oui, l'extension, non, dans la mesure où j'ordonne des jeunes chaque année prêtres. Bon, donc, ça veut dire que la filière n'est pas tarie et qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui se présentent se préparer à être prêtre.
On est clair que...
J'en vois un dans la salle, d'ailleurs.
Il y en a un dans la salle, oui, d'accord. Jeune prêtre, voilà. D'accord. Ou qui va se faire ordonner, qui est ordonné
voilà,
déjà.
Voilà, qui est séminariste, qui est en préparation.
Qui est séminariste. Néanmoins, on ne va pas se mentir, une ordination ne remplace pas un départ en retraite.
Je crois que...
Est-ce que vous avez une vraie vision claire de la pyramide des âges des prêtres de votre diocèse?
Oui, ça c'est assez facile à avoir. On voit que c'est une pyramide, je veux dire, c'est vrai qu'il y a la pointe en bas, hein, oui. C'est-à-dire au niveau des plus jeunes. Oui. Bon. Ceci dit, moi je suis à la fois soucieux, je ne suis pas angoissé non plus.
Soucieux, vous devriez N'importe quel mouvement qui veut propager sa parole et qui a une pyramide dont la pointe est en bas doit s'inquiéter pour son avenir.
Oui, sur un plan humain, c'est source de soucis. Ceci dit, je pense qu'on aura une vie d'église qui s'organisera ou se déploiera un peu différemment de ce qu'on a connu aujourd'hui.
C'est-à-dire avec des laïcs?
Avec des laïcs en responsabilité et puis des prêtres moins nombreux mais qui sont présents sur le terrain, peut-être pas dans chaque paroisse. peut-être pas au plus près, mais en même temps, je vois, enfin, il y aura, pour l'instant, dans les 10 ans qui viennent, une centaine de prêtres qui seront donc en activité dans le diocèse, mais c'est vrai que ça demande aux laïcs de s'engager davantage, de prendre des responsabilités dans l'Église pour que la vie de l'Église repose davantage un peu sur l'ensemble des baptisés.
Alors, est-ce que franchement, vous croyez qu'un laïc peut remplacer complètement un clerc ? Est-ce que vous croyez que ce qui ne vous a pas apporté des ouailles ces 50 dernières années, ça n'est pas le prêtre qui jouait au foot avec les gamins, ça n'est pas le prêtre qui rendait visite aux familles, ça n'est pas le prêtre qui rendait visite aux malades directement, travail qu'il ne pourra plus faire. S'ils sont 100 pour tout le diocèse de Bordeaux, vous voyez bien le boulot que ça va être.
Oui, mais je veux dire aujourd'hui, dans l'animation des jeunes, dans l'animation de l'aumônerie, dans l'animation d'un certain nombre de groupes, par exemple d'enfants ou de jeunes, ce sont des hommes, des femmes, d'autres jeunes qui les animent. Hein. Je crois qu'on n'est pas dans le désert, là. Et puis, si vous voulez, je crois qu'il y a l'organisation, c'est important.
Je dis le prêtre et les religieuses au passage d'ailleurs, hein, parce que la pyramide est dans le même état du côté des religieuses, et il y en a aussi dans la salle.
Mais en même temps, je veux dire, pour moi, ce qui est au cœur de mon engagement, c'est une expérience spirituelle, qui est que le Christ aujourd'hui est important pour des hommes et des femmes. Il trouve en l'Évangile une raison de vivre, et je me dis ça. Je crois que l'Église est passée par des hauts, des bas, mais sur le plan de l'expérience spirituelle, je crois que là, nous échappons à la question des chiffres. Ce n'est pas un échappatoire, mais c'est le fondement d'une espérance.
Mais c'est de la résignation ou de l'inconscience, parce que, je ne sais pas, moi, si j'étais un parti politique et que j'avais une pyramide des âges où j'ai la majorité de mes permanents qui est plus de 70 ans, ou de mes adhérents qui est plus de 70 ans, et une toute petite minorité qui a 25 ou 30 ans, je m'inquiéterais pour l'avenir de mon mouvement, de ma parole, de mon projet, de mon programme. Votre programme, c'est le Christ. Et ben, vous n'aurez plus qu'une poignée de clercs pour l'annoncer.
Eh bien, ça a commencé comme ça, hein.
C'est retour aux fondamentaux.
Au moment, si vous voulez, où le Christ est mis au tombeau, il n'y a plus personne. Bon. Et je crois qu'il y a une énergie qui fait que des hommes et des femmes, à un moment, se lèvent, veulent suivre le Christ et veulent témoigner de cette foi. Alors, c'est vrai que la vie des communautés, après, elle change quand on regarde l'histoire.
Ben, c'est-à-dire que des aumôneries dans les lycées, vous n'en avez plus guère, elles sont devenues groupusculaires, on peut dire ça comme ça.
Il y en a quand même, je veux dire. Et il y a aussi une aumônerie d'étudiants. Ils ont fait une marche dimanche dernier, bon, qui montre en même temps que, même s'il y en a moins qu'autrefois, il y a des jeunes aujourd'hui qui cherchent dans ce sens-là, quand même.
Alors, question quand même là qui fâche la plupart des laïcs de l'Église catholique aujourd'hui, qui sont parfois salariés même de votre Église, et vous payez des salaires tous les mois, sont des femmes. Or, il est assez étrange de faire reposer l'avenir de l'Église sur des laïcs femmes, alors même que vous leur avez fermé depuis toujours l'accès au statut de prêtre. Vous ne trouvez pas ça paradoxal ?
Je crois qu'il y a des complémentarités dans l'Église. C'est vrai que beaucoup de femmes ont des responsabilités, ce qui n'était pas le cas il y a, disons, une quarantaine d'années. Hein, je crois que d'ailleurs, il y a un certain nombre de responsabilités aussi, qu'elles sont appelées aussi à prendre dans l'avenir. Je vois, pour un certain nombre de grands départements de la vie de l'Église, c'est des femmes qui sont aujourd'hui en responsabilité, là où autrefois il y avait des prêtres. Ben, voilà.
Ben, de là, au moment où elles vont consacrer le pain et le vin et distribuer la communion, il n'y a plus qu'un pas.
Un pas, mais qui est quand même hautement symbolique. Donc,
symbolique de quoi ?
Je crois que, si vous voulez, le Christ lui-même a appelé des hommes, des femmes qui étaient aussi avec lui. Et en même temps, parmi les apôtres, ce sont des hommes. Voilà. Symbolisme un peu de la paternité de Dieu. Alors, est-ce que hommes et femmes, nous pouvons aussi bien symboliser la paternité de Dieu ? Là, je crois qu'il y a une recherche, si vous voulez, mais qui, du coup, est à poursuivre, et qui, à mon avis, implique aussi toute la dimension psychologique aussi, du féminin et du masculin dans notre société. Mais là, on touche des problèmes qui sont brûlants, décisifs aujourd'hui.
Est-ce que, Monseigneur Ricard, vous pensez que vous partirez pour le paradis, je vous le souhaite, en ayant vu des femmes prêtres. Est-ce que vous pensez que c'est inexorable, même si ça ne sera pas de votre responsabilité directe, vous n'êtes pas chaud manifestement, vous venez de nous le dire, mais est-ce que vous pensez qu'inexorablement, au moment où vous partirez vers le ciel, des femmes seront prêtres et peut-être même des prêtres mariés ?
Tout dépend du... Ah, c'est... Les deux ne sont pas du même type.
Non.
Hein. En tout cas, pour les femmes, sauf si Dieu me donne une longévité de vie...
Exceptionnel.
Oui, oui, de Mathusalem, voilà. Sans ça, à part ça, je ne suis pas garant.
Une femme chrétienne, justement, militante, mais pas prêtre, elle pourrait être diacre, mais nous serons avec elle dans un instant. Elle s'appelle Véronique Fayet, elle est adjointe au maire de Bordeaux.
Christophe Ondelatte,
le journal inattendu sur RTL.
RTL 13h11, Monseigneur Ricard est l'invité du journal inattendu présenté par Christophe Ondelatte. Ils sont en direct de Bordeaux.
En direct de la FNAC de Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Alors c'est vous, Monseigneur Ricard, qui avez choisi l'invitée suivante, Véronique Fayet, qui est adjointe au maire d'Alain Juppé, en charge des questions sociales, membre du MoDem de François Bayrou, très imprégné de démocratie chrétienne. D'ailleurs, c'est une particularité, je le dis au passage, c'est une parenthèse, mais une particularité bordelaise. Ici, le MoDem travaille avec l'UMP, ailleurs avec le Parti Socialiste, ici avec l'UMP. On referme la parenthèse. Alors je suis surpris, Monseigneur Ricard, parce que moi je croyais que l'Église devait se tenir loin de la politique, puis d'ailleurs la politique loin de l'Église.
Eh bien justement, si vous voulez, c'est pour m'inscrire en faux, pour montrer qu'on peut être catholique et en même temps être engagé au niveau municipal, au niveau social, au niveau politique. C'est peut-être pas sans tension, mais en tout cas, je crois qu'il y a un enjeu. On ne vit pas uniquement sa foi, simplement le dimanche en allant à la messe ou de temps en temps faisant une petite prière. C'est toute la vie qui doit être imprégnée par ça.
Véronique Fayet, d'ailleurs, est-ce que vous direz, là maintenant, publiquement, que vous êtes chrétienne, étant élue du peuple, par ailleurs ?
Oui, bien sûr, je m'en cache pas. En même temps, je n'en fais pas un étendard, un drapeau. Je suis dans un parti qui ne s'appelle plus, qui n'est plus démocrate chrétien, qui est mouvement démocrate. Mais je ne m'en cache pas. Je crois que ceux qui me connaissent savent, voilà, que je suis très engagée dans l'Église et que la foi est quelque chose de vital pour moi.
En quoi est-ce que votre foi pèse sur votre action politique ?
Je crois qu'elle la nourrit, de l'intérieur, et je crois que c'est par la foi que j'essaye de faire un peu l'unité de ma vie. C'est vrai, comme le disait Monseigneur Ricard, qu'on a tendance à faire des petits compartiments, des cloisonnements, à dire la foi c'est une affaire privée, et puis la vie publique c'est autre chose. Moi j'ai découvert, il y a une quinzaine d'années, mieux vaut tard que jamais, que tout devait être lié, quoi. Le corps, le psychisme et le spirituel, et que le chemin spirituel était un chemin d'humanité, et qu'à l'inverse, le chemin d'humanité et bon, les coûts, les aléas de la vie, etc. Et tout ça, c'était un chemin spirituel aussi. Et donc, petit à petit, voilà, j'essaie de marcher sur ce chemin d'unité. C'est la quête de toute une vie. Mais
alors, je vais interroger la femme politique dans un instant, mais je voudrais juste que la chrétienne réponde à cette question. Vous avez entendu Monseigneur Ricard, à moins de vieillir comme Mathusalem, vous ne serez, et les femmes, alors au sens large, hein, jamais prêtres de cette Église. Voilà, on nous dit que les apôtres étaient des hommes et que donc, ça ne va pas être possible. Et je vous ai vu un peu tiquer sur cette question-là.
Non, j'avais envie de vous parler de l'Église, effectivement. Moi, j'aime passionnément mon Église. Alors, apparemment, on n'est plus beaucoup, on serait qu'un tiers. J'aime l'Église comme ma famille, comme celle qui me nourrit. Et l'Église, c'est un peu une famille formidable. Vous savez, cette série télévisée, là, un peu sympathique. C'est une famille formidable, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, loin de là. On donc, s'engueule.
Donc cette histoire de femme pas ordonnée, c'est une imperfection.
C'est, écoutez, on va en parler entre nous, on va en parler en famille, puis peut-être que les choses vont évoluer.
Ça fait un moment que le sujet est sur la table.
Ce que je n'aime pas actuellement, c'est l'image que l'on donne de l'Église dans les médias. Une image caricaturale dans laquelle les chrétiens seraient des godillots, sommés d'obéir et d'exécuter... des choses qui
on
sont traduites par les journalistes, d'ailleurs.
Oui.
Alors que l'Église, c'est un lieu de liberté et de responsabilité.
Mais est-ce que, comme moi, vous trouvez qu'il y a une certaine contradiction à donner de plus en plus de responsabilités aux femmes dans l'Église ? Elles sont bonnes pour le catéchisme, bonnes pour diriger les aumôneries, mais alors pas bonnes pour dire la messe ?
Je crois que c'est un chemin qu'il faut qu'on fasse, une réflexion qu'on fasse
vous
ensemble.
Vous en avez envie, vous ?
Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est fondamental. Je ne sais pas si c'est fondamental. Je suis très attachée aussi au,
Pour l'image, ça serait prêtres. Bon. Pour l'image, ça serait bon.
À l'égard quelle image de, à l'égard de qui?
De ceux qui, peut-être, peuvent venir vers vous.
Moi, je crois que ce qui serait, changer les choses plus fondamentalement, qui donnerait aux gens envie de revenir vers l'Église, c'est si on avait vraiment des gueules de ressuscité. C'est-à-dire, si on était joyeux, si on était imprégné de notre foi... Là, il n'y aurait pas plus de problème de vocation. Donc, je pense que le problème n'est pas de savoir si on va ordonner ou pas des femmes. Le problème, plutôt, de savoir si les chrétiens vivent de la foi du Christ, s'ils sont
au charbon,
s'ils sont dans la joie de la résurrection et s'ils en témoignent ou pas.
Alors, vous qui êtes une femme de terrain, vous occupez de social à Bordeaux. Si j'ai bien compris, alors il n'y a pas les municipalités n'ont pas un gros budget pour gérer les questions sociales. C'est le Conseil général dans les institutions françaises qui agit sur le social, mais enfin, vous avez néanmoins une action en direction de quoi? Les sans-abri, les familles les plus pauvres
Un petit peu tout, parce que le maire, même s'il n'a pas les compétences en matière de solidarité, en fait, c'est à lui que s'adressent les gens. Quand les gens sont dans la panade, qu'ils n'ont pas de logement, qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils sont en difficulté financière, ils vont voir le maire ou la mairie, ils viennent à la mairie, c'est là qu'ils viennent frapper. Donc, on a dans la mission que j'ai, une compétence très large auprès des jeunes en difficulté en recherche d'insertion, des personnes à la rue, des familles précaires, et on essaye d'harmoniser toutes les politiques publiques pour que tout le monde ait sa place dans la ville, en fait.
Ça comprend la toxicomanie, la lutte contre la toxicomanie, cette affaire-là. Oui. Est-ce que dans votre action, vous dites vous-même, ou les gens qui travaillent avec vous, que pour se protéger de la transmission du virus du sida, il faut porter un préservatif?
Bien sûr.
Sans aucune gêne.
Sans aucune gêne.
Et la chrétienne que vous êtes s'arrange avec cela.
Mais non, mais je crois que le Mgr Ricard l'a très bien expliqué. Il y a un chemin qui est montré par l'Église et qui dit, pour grandir en humanité, l'idéal, c'est l'abstinence, la fidélité, etc. Bon, voilà. Après, chacun...
Après, selon nous sommes des hommes et des femmes.
Mais bien sûr. Et selon le lieu où il est, et selon ce qu'il vit à un moment donné, selon son état de santé, selon s'il a besoin de prendre un préservatif, s'il a besoin de faire appel à la contraception, il est entièrement libre de le faire, et c'est pas pour ça qu'il sera condamné.
Parce qu'on peut comme
c'est
ça.
C'est ça le vrai message.
On peut faire plein de petits arrangements comme ça, parce que l'Église est aussi contre.
Non, c'est pas des arrangements.
Contre la communion des divorcés remariés, puis il y a plein de divorcés remariés catholiques qui communiquent quand même. Donc si chacun fait ses petits arrangements, ses petites touillades.
Il n'y
a plus de dogme.
Non, non, non. C'est pas écrit dans l'évangile qu'il ne faut pas utiliser de préservatif. Donc ne confondez pas tout. Non, non.
Est-ce que ça fait encore rire aujourd'hui vos copains, vos amis, ou voir les autres élus de votre conseil municipal que d'être chrétienne et que de le dire? Est-ce que ça. On vous charrie un peu? Est-ce qu'on vous appelle la grenouille de Bénitier, ce genre de truc?
Je sais pas, peut-être, oui, peut-être. Mais bon, j'entends pas, j'écoute pas.
Pourquoi avoir choisi la politique plutôt que l'action associative? Vous avez débuté votre action militante par ATD Quart Monde.
Par ATD Quart Monde. Je suis arrivée par hasard en politique, mais j'ai pris conscience au fil des années que, en fait, l'essentiel du travail politique, c'est le service. En fait, beaucoup plus que le combat, la violence, la petite partie qu'on voit beaucoup dans les médias, parce que ça amuse beaucoup les médias. Mais en fait, le fond de notre travail, moi je dis souvent c'est 80%, c'est le service. Contrairement à ce qu'on croit, les élus sont au service de la population, et les élus, et plus les communes sont petites, plus les élus font preuve de vraiment de grande générosité, d'abnégation, etc. Et donc le service, c'est un lieu privilégié d'engagement pour les chrétiens. Donc il devrait y avoir beaucoup plus de chrétiens en politique, puisque vraiment on est appelé à être serviteur. C'est vraiment tout le message de Pâques.
Monseigneur Ricard, satisfait de l'intervention de votre invité?
Écoutez, moi je constate que de fait, elle n'épargne pas sa peine. Et en même temps, elle ne cache pas sa foi. Je crois qu'elle tient bien sa place là sur Bordeaux. Là.
On fait connaissance avec votre deuxième invité dans un instant. Boris Bruno se fait baptiser ce soir.
Le journal inattendu.
12h30, 13h30 sur RTL.
Christophe Ondelatte.
RTL 13h21, suite et fin du journal inattendu en direct de Bordeaux, aux côtés de Christophe Ondelatte, Monseigneur Jean-Pierre Ricard.
Nous sommes à la FNAC de Bordeaux, aujourd'hui à la veille de Pâques, et on va évoquer maintenant, Mgr Ricard, avec l'un de vos invités, un phénomène qui va grandissant, semble-t-il, dans l'Église catholique, ce qui doit quand même vous rassurer un peu au vu de tous les problèmes dont on vient de parler maintenant. Il s'agit du baptême des adultes, célébré notamment au moment de Pâques. Il y aurait chaque année 3000 baptêmes d'adultes, de catéchumènes, hein, comme on dit dans l'Église catholique en France, dont une cinquantaine ici, à Bordeaux, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors, vous êtes Boris Bruno, l'un de ces catéchumènes de ce soir. Vous allez être baptisé dans l'église Saint-Médard en Jalles. Vous avez 26 ans. Vous faites des études de marketing actuellement. Vous avez une copine. Votre famille, je crois, n'est pas croyante. Elle ne vous a pas fait baptiser enfant. Pourquoi ?
Alors voilà, en fait, donc, ma famille, mes parents ont été baptisés. Ouais. Mais m'ont laissé le choix, en fait, de ma propre initiative après, de faire le pas pour être baptisé.
C'était ça leur idée, tu verras quand tu seras plus grand.
Exactement. Et quand tu seras en âge de comprendre, tu feras ton choix.
Alors comment ça s'est passé pour vous ? À quel moment est-ce que cette idée vous a traversé l'esprit, puisque donc vous n'êtes jamais allé au catéchisme ?
Non, effectivement. Donc en fait, moi, ça fait quelques années que tout au long de ma vie, j'ai rencontré des gens croyants, chrétiens, catholiques, avec qui j'ai pu discuter. Qui ont pu répondre à certaines de mes questions, car bon, bah, ne connaissant pas du tout l'Église, j'avais forcément des questions un peu à ce sujet-là. Tout au long de ma vie, donc.
Quelle était la prévention que vous aviez, la peur ? Enfin, ce qui.
C'était. Oh, j'ai jamais eu peur vraiment, en fait. Hein.
Ce qui pouvait vous rebuter le plus ou qui vous intriguait le plus ?
Ben, vu que c'était pas dans ma culture, si je puis dire, en fait, directement. De par mes parents, bon, bah, c'est vrai que voilà, c'est venu de moi-même en fait, au fur et à mesure de mon avancement, de mon cheminement, j'ai ressenti le besoin en fait d'avoir des réponses à mes questions au sujet de l'Église, au sujet de la vie, et donc c'est l'année dernière que j'ai franchi le cap en fait en entrant dans une église tout simplement et en prenant contact en fait avec des personnes qui m'ont guidé vers Madame Prieto, donc la personne qui s'est occupée de moi pour m'expliquer un petit peu. Qu'était la religion, ce qu'était le livre aussi. Donc, on a lu des passages ensemble de la Bible.
Alors, attends, pour que les choses soient bien claires, il n'y a pas un jour une petite voix qui vous parle et qui vous dit, Boris, tu es chrétien, fais-toi baptiser.
Non, voilà, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Il n'y a pas eu d'apparition, il n'y a pas eu de petite voix, de rien du tout. Non, c'était vraiment. Alors, on pourrait traduire ça comme une démarche personnelle ou comme un appel, en fait, du Seigneur. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé en moi, une envie de savoir, une envie de découvrir.
Et donc on vous donne un an pour apprendre.
Alors moi ça s'est passé en un an. En général ça prend un peu plus de temps. C'est plus un an et demi, deux ans. Bon moi j'ai.
À raison de combien d'heures par semaine
On va dire en gros il y a deux réunions par mois. Une réunion avec la personne qui s'occupe de vous et une personne en groupe, donc avec tous les catéchumènes et toutes les personnes qui s'occupent de chaque catéchumène. Ensuite, moi c'est vrai que j'ai passé un peu plus de temps, par exemple l'été dernier où j'ai consacré beaucoup de temps. Tous les jeudis j'allais voir Madame Prieto. On a beaucoup discuté ensemble, on a passé beaucoup de temps pour.
Alors je disais que vous aviez une copine. Hein. C'est important. La raison de votre baptême n'est-elle pas de pouvoir célébrer un mariage à l'église ? Quoique, sans doute, Monseigneur, vous n'allez pas me démentir, on doit pouvoir se marier à l'église aujourd'hui, même quand on n'est pas baptisé.
Oui, dans la mesure.
Il y en a au moins des deux.
Dans la mesure où, quand même, à ce moment-là, on envisage un mariage proche.
D'accord.
Voilà, donc en fait, moi, c'est vrai que ça a été peut-être un petit peu un déclic, mais c'était. Ma copine, c'est vrai qu'elle aimerait se marier à l'église. On m'en avait parlé comme ça. C'est pas la raison. En fait, ça a été peut-être le moment qui a été propice. Mais il faut bien savoir une chose, c'est que moi, après tout mon cheminement que j'ai fait tout au long de cette année, c'était vraiment quelque chose de personnel. C'était quelque chose qui m'a vraiment fait avancer et je sens vraiment quelque chose. C'est pas dans le but de me marier à l'église. Ça n'a vraiment rien à voir, quoi.
Alors. Comment se fait-il que toutes les polémiques, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir des jeunes entrer dans l'église catholique au moment où un certain nombre de catholiques disent on a un problème avec le pape, on a un problème avec un certain nombre de prises de position dogmatiques dans lesquelles on ne se reconnaît pas du tout. Alors est-ce que déjà vous avez fait votre petite tambouille comme notre principal invité, c'est-à-dire vous avez pris ce qui vous branchait et puis rejeté ce qui vous plaît pas ?
Non, je vois pas ça comme ça en fait. Pour moi vraiment l'église c'est quelque chose de... On peut interpréter ça tellement de manières différentes. Pour moi, c'est quelque chose de très symbolique. Il y a des idées tellement, tellement belles. Après, c'est l'interprétation des hommes qui fait que ça peut varier et dériver. Et c'est pas parce que moi, ce soir, je me fais baptiser que je peux tout cautionner. Je prends pas tout à bras le corps. Je veux pas dire non plus que je fais le tri, mais pour moi, c'est quelque chose de vraiment. L'Église, c'est vraiment très important, et il faut savoir faire la part des choses. Il faut pas extrapoler.
Je me trompe, Monseigneur, ou dans le credo, donc cette manière de dire, je crois, il y a, je crois en l'Église catholique.
Oui.
Donc faut tout prendre, on ne peut pas faire sa tambouille.
Si vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est la foi de l'Église. On ne prend pas après toute l'organisation telle qu'elle existe, qui a beaucoup varié au niveau des siècles.
Pour être clair, Boris, le port du préservatif, vous êtes pour bien combattre sûr. La maladie du sida.
Moi, personnellement, oui. Je pense que, voilà, comme il a été dit tout à l'heure...
Vous l'avez utilisé vous-même.
Bien évidemment. Et je pense que c'est important...
Vous avez aussi des relations sexuelles avant le mariage.
Aussi.
Ouais.
Mais je ne suis pas encore baptisé, de toute façon.
Qu'est-ce que ça va être après, alors?
C'est fini ce soir, cette affaire-là. et cette idée dont on parlait tout à l'heure avec Mme Fayet, du mariage, enfin, l'ordination des femmes, ou du mariage des prêtres, enfin... Bon.
Écoutez, moi, de mon point de vue, pourquoi pas? Après, c'est vrai que, c'est assez récent pour moi, tout ça. Donc, mon cheminement commence, ça fait un an. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que j'ai demandé aussi à faire ma confirmation que l'année prochaine. On m'a proposé de la faire cet été. J'ai préféré attendre un petit peu parce que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, quand même.
Vous serez un catholique qui ira régulièrement à la messe, ou un catholique qui, comme beaucoup de catholiques, s'arrangera avec une ou deux messes par an et puis c'est tout?
Ben justement, moi je pense pouvoir, enfin j'espère pouvoir consacrer plus de temps qu'une fois de temps en temps, en y allant assez régulièrement. Je pense qu'il y a besoin de lancer une dynamique quand même, mais je pense qu'aussi la vie du chrétien, c'est pas juste la messe le dimanche matin, c'est aussi une vie de, c'est quelque chose de tous les jours, quoi. Ça fait partie de nous, c'est être plus à l'écoute des gens, notamment dans le domaine du social, être plus à l'écoute, aider.
Il y a une petite fête ce soir après le baptême ou...
Bien sûr,
oui.
Bien sûr. Toute la famille est invitée de mon côté, du côté de ma copine aussi.
Ouais.
Bien sûr, on va arroser l'événement.
À quelle heure ça? Ça nous fait dans les
quelles heures? Alors, le baptême a lieu à 21h, donc vous pouvez venir après.
À 23h.
Voilà, vers 23h.
Bon, ben merci. Merci à vous. Merci à vous, Monseigneur Ricard, d'avoir accepté cette invitation ici à la FNAC de Bordeaux, à la veille de Pâques. C'était pas banal et on a passé un moment intéressant. La semaine prochaine, nous serons avec qui, Valentin? Il faut que Valentin me le rappelle. Avec Ariel Dombal, en direct de nos studios à Paris. Oui, changement de décor. Salut, bon week-end de Pâques.
Le journal inattendu sur RTL.